se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de cabillaud entier vidé est à seulement 5,99€.
À ce prix-là, c'est vraiment une bonne pêche. Et en plus, il y a marée basse sur son prix.
Justement, c'est l'occasion ou jamais.
En tout cas, moi, je me jette à l'eau.
Eh ben moi aussi. Auchan, avec plaisir. 5,99€, le kilo de cabillaud entier vidé avec tête. Pièce de 2 à 4 kilos élevée en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
6h-7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous. Et merci encore une fois d'avoir choisi RMC. Vous le savez, c'est le week-end des experts, c'est le jardin. On est ensemble avec Patrick Mulan jusqu'à 7h. Et à partir de 7h, vous retrouverez la maison. Patrick, on va retrouver dans un instant les plantes parfumées, mais auparavant, pour se mettre peut-être un petit peu au goût du jour et au parfum, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots, on accueille tout de suite Jean qui est là.
Oui, bonjour, bonjour tous les deux, merci de prendre ma question.
Bonjour Jean.
Bienvenue. Écoutez, vous m'avez donné envie dimanche de planter de la lavande.
Oui.
Vous en avez tellement bien parlé.
En plus, vous êtes à Carros dans les Alpes-Maritimes, donc ça devrait aller.
oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut la planter encore maintenant? Et le sol, comment doit-on faire? Bien drainé?
Alors, je pense que j'avais vraiment insisté là-dessus la semaine dernière aussi, c'est que la lavande, ça pousse dans de la caillasse. Donc oui. J'avais, si je me rappelle bien, insisté sur le fait que si on met des lavandes en pot, on ne les plante pas dans du terreau. C'est la meilleure façon de les faire crever. Donc, il faut un sol qui soit sableux, plutôt légèrement calcaire, caillouteux pour être très, 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 très drainé. Et voilà le secret. Alors, vous allez les mettre en pleine terre ou vous allez les mettre en pot?
En pleine terre. Il y a un petit carré, un petit contre un mur. Il y a un petit endroit où on n'a rien, rien mis.
Voilà. Donc, si la terre n'est pas vraiment sableuse, apportez du sable grossier, donc avec des éléments de cailloux là-dedans, et vous mélangez avec la terre d'origine pour être certain que vous n'aurez pas d'eau stagnante. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas dans une région où on est réputé pour avoir de l'eau stagnante normalement. Alors bien sûr, le plein soleil, c'est indispensable pour avoir une bonne floraison. Oui, vous pouvez encore en planter maintenant si vous en trouvez dans les jardineries. Je pense qu'il y en a encore un petit peu. C'est vrai qu'on est à la fin de la période de floraison, mais il doit y en avoir encore, puisque de toute façon, c'est une plante qui a un succès extraordinaire actuellement en Europe. Et voilà, il y a pas... Dans votre région, je suis pas inquiet, quoi. C'est vraiment pratiquement pas l'idéal. Oui. En fait, normalement, ça pousse un peu plus en altitude. Hein. Les lavandes poussent entre 600 et 800 mètres d'altitude, mais bon, vous aurez pas de problème. Alors, si vous êtes vraiment dans un climat, on va dire, de Côte d'Azur, de Riviera, il faudra quand même les arroser, parce que vous n'avez pas forcément toujours beaucoup d'eau, et surtout vous avez des très très fortes montées en température. Mmh. Mais l'arrosage, quand vous avez une moyenne de 30 degrés dans la semaine, vous allez arroser une fois dans la semaine, ça sera suffisant.
Ah, très bien, très bien. Merci beaucoup.
En revanche, si vous les plantez maintenant, là il faut arroser quand même tous les soirs pendant au moins une dizaine de jours après la plantation, pour que la plante elle puisse bien s'installer. Une fois qu'elle est installée, là, vous arrosez beaucoup moins.
Ah ben, écoutez, merci, vous êtes super.
Eh ben, je vous souhaite une bonne plantation.
Ben voilà, vous allez vous y mettre quand, Jean?
Ah, on va faire ça peut-être demain ou lundi ou mardi, très rapidement.
Parfait, très bien. Ben écoutez, voilà, vous avez une seule occupation qui est prévue. Merci.
Oui. Ça me fait
penser à la chanson de Sardou. Aujourd'hui
merci.
Peut-être.
Ou alors demain.
Ou alors demain.
6h32 sur RMC. Allez, on va maintenant s'intéresser au parfum des plantes et aux plantes parfumées. Et c'est vrai que dans la nature, les odeurs sont partout. Et nous, les humains, on a quand même cette capacité, alors beaucoup moins évoluée et performante que les animaux, par exemple les chiens, mais on sent les odeurs, hein, Patrick. C'est quelque chose... Il y a un truc qui me fascine, c'est la mémoire olfactive, par exemple.
Oui.
Hein, fait de croiser un parfum qu'on n'a pas senti, par exemple, depuis des années, tout de suite, paf, ça remonte comme ça à l'esprit.
Il y a une chose qui est assez extraordinaire, c'est de savoir que notre sens humain de l'odorat est 10 000 fois plus développé que celui du goût. Et on pourrait croire l'inverse, mais c'est vrai que les odeurs, vous venez bien de le décrire, on a des mémoires olfactives, c'est-à-dire des odeurs parfois très fines, que l'on ne sait pas forcément distinguer, parce que vous allez vous dire « Ah, je me rappelle l'odeur de l'arbre de mon grand-père », mais c'est une partie.
Mais bien sûr.
Mais c'est cette odeur-là qui vous a marqué. Avec le goût, on est moins capable, alors, sauf certains experts, mais par exemple, de déceler exactement toutes les saveurs qu'il y a dans un plat.
Oui, c'est vrai.
C'est beaucoup plus compliqué de les détailler. En revanche, bon, c'est vrai que les chiens, eux, ont un odorat 100 fois plus développé que le nôtre, et ça, c'est assez impressionnant.
Allez, on attaque notre sujet. D'où vient le parfum d'une plante, Patrick ?
Alors, vous avez des cellules spéciales qui sécrètent ce que l'on appelle de l'huile essentielle, qui se trouvent soit sur la partie supérieure du pétale, dans la fleur, ou sur des glandes qui sont à la base des feuilles, puisque vous avez aussi des feuilles qui sont parfumées. Mmh. Les étamines aussi participent à la production de parfums. Alors, si vous regardez ces pétales, par exemple, parfumés au microscope électronique, vous voyez carrément comme des gouttes. Alors, c'est microscopique, bien sûr, on ne les voit pas, nous, à l'œil nu, mais c'est vraiment très important. Et ces petites gouttes, bon, vont se diffuser. Et c'est ce que l'on appelle des volatiles qui font que dans l'atmosphère, dans l'air autour de la plante, vous avez cette senteur qui sont en général agréables, mais pas forcément. Il y a des plantes qui puent carrément.
Alors, les feuilles aussi peuvent produire du parfum. Et comment ça marche, tiens ?
Vous avez, par exemple, si vous prenez les plantes aromatiques comme le thym, la lavande, le romarin, la menthe, eh bien, vous avez des glandes qui, elles, ne libèrent pas le parfum comme le pétale, mais qui, dès qu'elles sont froissées, ou même parfois simplement avec un coup de vent, le basilic, par exemple.
C'est
le basilic sous... Faites un thèse. Vous prenez un pot de basilic, vous soufflez dessus. Vous allez voir,
vous allez avoir des remontées comme ça d'arômes.
Se dégager parce que ce sont des microscopiques petites gouttelettes qui vont se dégager. Et vous avez des feuilles, par exemple, chez certains pélargoniums. Alors, vous savez, par exemple, que le parfum de rose que l'on a souvent dans les savons, les choses comme ça, c'est pas fait avec des roses. C'est fait avec un pélargonium qui, lui, a vraiment cette odeur de rose et qui, donc, donne ce parfum qui lui sert, lui, à se protéger du rayonnement solaire.
De quoi se compose le parfum d'une plante, Patrick ?
Alors, ce sont un ensemble de substances chimiques qui sont très, 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 très complexes, qui sont des molécules qu'on appelle des terpènes. Alors, notre ami Christian Ricca, il va être très, très intéressé par ça, parce que c'est des choses dont il parle aussi, lui, au niveau des antioxydants notamment, mais les phényls, par exemple, bon, l'éthanol, les cétones, des acides gras, tout ça sont des éléments qui rentrent dans la composition des parfums. Et pour vous donner une idée de la complexité, on n'a toujours pas réussi à faire exactement de façon synthétique un parfum de rose, alors qu'on a déjà découvert plus de 400 composants dans l'huile essentielle de rose. Donc c'est complètement d'une subtilité absolument extraordinaire. Donc c'est surtout les monoterpènes, qu'on appelle le géranium, le citronellol, le nérol, qui sont les compositions les plus puissantes et qui sont à la fois intenses, mais ils sont fugaces. Donc c'est ce qu'on appelle la note de tête. C'est-à-dire que quand vous prenez une fleur et puis vous mettez votre nez dessus, tout d'un coup, boum, vous avez une bouffée et vous dites, tiens, ça sent ça. Mais si vous faites l'effort intellectuel de laisser passer cette odeur-là, vous savez, c'est un peu comme la dégustation du vin. Vous prenez déjà dans la bouche quelque chose et puis tout d'un coup, ça va changer au fur et à mesure que vous allez faire passer à l'intérieur de la bouche. Et bien là, dans le nez, c'est la même chose. Paf ! Vous avez cette odeur peut-être, et puis petit à petit, vous avez des choses beaucoup plus subtiles.
Il y a le deuxième effet plus subtil.
Et donc ça vient souvent d'autres substances, et notamment les polyéthanols.
Alors pourquoi certaines plantes sont-elles parfumées et pas d'autres ?
Alors, les plantes à parfum, comme vous le disiez tout à l'heure François, elles sont, alors quand je parle des plantes à parfum, on va dire les plantes à fleurs parfumées. Leur fonction, c'est essentiellement l'attraction des insectes pollinisateurs. Mais, la plupart du temps, et notamment les plantes qui fabrique du parfum sur le feuillage, comme toutes les aromatiques dont je vous parlais précédemment. Celles-là, elles ont ces huiles essentielles pour faire une défense contre les bioagresseurs. C'est-à-dire que, par exemple, l'essence de menthe est totalement peu attractive pour beaucoup d'insectes. D'où l'intérêt que l'on a aujourd'hui dans les jardins, où on n'a plus de fonction vraiment de soins directs, puisque les produits de traitement, on les a plus, de faire ce que l'on appelle le compagnonnage, en mélangeant des plantes d'odeurs différentes, vous allez entraîner ce qu'on appelle une confusion olfactive chez les prédateurs. Par exemple, il est tout à fait intéressant d'associer dans le potager des carottes avec des tomates ou des poireaux avec des choux. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'odeur, par exemple, de poireau, qui est une odeur aliacée, elle va entraîner en fait une sorte de confusion par rapport à ce qu'on appelle la pyrite du chou. Vous savez, ce petit papillon blanc à points noirs, dont les larves dévorent complètement les feuilles de chou. Eh bien, lui, il cherche le chou, c'est-à-dire l'odeur de chou. Ça a une odeur, hein, le chou. Mais si vous mettez des poireaux ou de l'ail ou de l'oignon à côté...
Ça le perturbe.
Bah, ça le perturbe. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas quand même arriver à le trouver.
C'est comme si on brouillait son radar, quoi. C'est ça
exactement ça, voilà. Il est un peu dans le brouillard,
il ne sait plus trop.
Et du coup, vous réduisez les risques d'infestation. Et les plantes, elles, en sécrétant ces produits-là, eh bien, se protègent elles-mêmes aussi de ces insectes qui sont un petit peu prédateurs.
Est-ce que les couleurs des fleurs jouent un rôle sur le parfum, tiens ?
Alors, ce n'est pas la couleur elle-même qui joue, mais on s'est rendu compte que les couleurs les plus parfumées sont les blancs. Hein. Vous avez pratiquement une fleur blanche sur deux qui est parfumée. Après, vous avez les rouges, les roses, les jaunes. Alors, les bleus et les oranges, rarement parfumé.
D'accord.
Rarement.
Tiens.
Sauf la lavande, qui est bleu violacé.
Oui, qui est bleu violacé.
Mais, bon, souvent les blanches. Hein. D'une manière générale, regardez, les jasmins sont blancs, les lys parfumés sont blancs, etc.
Il y a un truc étonnant aussi, c'est que en général, les fleurs parfumées ont une très courte durée de vie, Patrick. On sait pourquoi ?
Oui, parce qu'en fait, l'essence florale, elle n'est qu'attractive. Donc, une fois que la pollinisation a été faite...
Ça ne sert plus à rien.
Alors, non seulement ça ne sert plus à rien, mais il ne faut plus attirer encore d'autres pollinisateurs pour ne pas avoir une sur-fécondation. Quand vous faites de l'hybridation de roses, par exemple, vous allez prendre du pollen d'une rose, mettre sur le pistil de l'autre. Ce que l'on fait toujours, c'est qu'on met un petit chapeau en papier dessus pour qu'il n'y ait pas d'autres insectes qui viennent, parce que là, on sait au moins ce qu'on a fait comme croisement. Bon, ben dans la nature, la plante, c'est la même chose. Une fois qu'elle a été fécondée, elle se dit, c'est pas la peine d'essayer de continuer. Il y a que chez les humains que l'accouplement est un jeu. Dans la nature, c'est une fonction reproductive.
Oui, bien sûr. Alors, Patrick, on va maintenant faire un petit tour du propriétaire. Quelles sont les fleurs les plus parfumées en cette saison ? Peut-être la rose pour commencer,
alors,
non ?
Bien sûr. Alors, attention, toutes les roses ne le sont pas. On a les meilleurs parfums, enfin du moins, pendant longtemps, les meilleurs parfums étaient sur les roses anciennes. Hein. Bon, par exemple, les fameuses cuisses de nymphe, cardinal de Richelieu, il y a même à parfum de l'Aï, par exemple. Toutes ces roses-là, comme aussi Honorine de Brabant, Président de 16, Yolande d'Aragon, Salet, tout ça, ce sont des roses classiques qui ont un défaut énorme, c'est qu'elles sont très, très, très sensibles aux maladies. Là, le parfum n'est pas du tout protecteur des maladies, il est uniquement attractif pour les pollinisateurs. En revanche, ces roses ont un parfum extraordinaire.
Ouais.
Et elles ont un autre défaut pour la plupart de celles que je viens de citer. Elles ne sont pas remontantes, c'est-à-dire qu'elles ont fini de fleurir maintenant. Mmh. Elles ne vont pas recommencer. Alors, dans les nouvelles, enfin, entre guillemets, dans les variétés récentes, il y a quand même des variétés qui sont formidablement parfumées. Jardin de Bayatel, vous avez Mélodie parfumée, ça veut tout, Nuage parfumé. Mmh. Alors, le fameux Papamayan, qui est pareil, aussi une rose extrêmement sensible aux maladies. D'ailleurs, j'ai l'impression que plus une rose est parfumée, et moins elle est résistante aux maladies.
Ah oui.
Ouais, généralement. Bon, alors je ne sais pas si j'ai 100% raison, mais il y a Red Parfum, voilà des roses qui sont Bolshoï, voilà des roses qui sont extraordinairement bien parfumées. Et Moi, je vous conseille, quand on achète un rosier, vaut mieux avoir été dans une roseraie ou chez le producteur avant pour
sentir un petit peu la rose qu'on aura.
Faire vraiment le plaisir. Bon, la lavande, on va pas revenir dessus, on
en a parlé la semaine dernière. C'est le symbole de la Provence.
Oui, alors, il faut dire quand même que la lavande, dans le jardin, elle est beaucoup plus intéressante qu'en production, puisque là, en ce moment, là, si vous allez sur le plateau de Valensole ce week-end, c'est la pleine récolte. Et donc, ça veut dire que dans 8-10 jours, il n'y aura plus rien. En revanche, au jardin, comme vous n'allez pas récolter, jusqu'en mois de septembre, vous avez encore les épis et il suffit de les frotter un peu et ça sent remarquablement bon. Donc ça, c'est intéressant.
Le raisin. Et les abeilles aussi se régalent, là.
Ah, tout à fait. Alors, tiens, puisqu'on parle de ça, les abeilles, je les ai vues butiner, mais comme des folles furieuses, des fusains du Japon. Alors, le fusain du Japon, c'est plutôt considéré comme un arbuste un peu de haie, avec des feuilles coriaces, et on n'imagine pas les fleurs. Parce que c'est tout petit. Et les fleurs sont extrêmement attractives, de même que le lierre, par exemple, le lierre qui sent rien, parce que ça aussi...
attire les abeilles quand même, c'est fou ça.
C'est pas forcément toujours le parfum. La couleur peut attirer, puis aussi simplement la présence de nectar. Alors, le réséda, qui est une plante qui est moche comme tout, mais alors qui sent magnifiquement bon, les lys blancs qu'on a en ce moment, bien entendu, les œillets, les chèvrefeuilles, le jasmin,
etc. Voilà, c'était quelques exemples de plantes qui sentent bon. Patrick, 7h moins le quart. On revient dans un instant. Jean-Pierre sera avec nous. Il va nous parler de ses plants de tomates. Et on retrouvera aussi la météo du jardinier. 32-16, si vous voulez nous joindre. Jean-Pierre sera là dans un instant. Mais tout comme Jean-Pierre, vous pouvez joindre notre expert jardin. Profitez-en. En plus, c'est vraiment la saison. 32-16, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h. Votre jardin. RMC jusqu'à 7h. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Voilà, un petit peu plus de 7h moins le quart. C'est RMC, le week-end des experts. Christian PC nous rejoint tout à l'heure entre 7 et 8. On va vous donner quelques conseils pour bien, comment dirais-je, entretenir sa climatisation. Bientôt, on va la solliciter, cette clim. Est-ce qu'il y a des gestes à avoir pour bien l'entretenir? Ça sera l'un des sujets qu'on évoquera tout à l'heure. Mais d'ici là, vous le savez, c'est le jardin. Patrick Mulan. Dans un instant, la météo du jardinier. Patrick, vous avez jeté un œil sur les cartes de Météo France. On va voir ce que ça donne. Mais auparavant, Jean-Pierre nous attend.
Allô ?
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour messieurs.
Je vous écoute.
Voilà. Donc, ma question concerne les plantes de tomates et concernant en particulier des gourmands. C'est ce qu'on appelle les gourmands.
Oui.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les gourmands. Il faut les laisser, il faut les enlever, suivant les variétés de tomates. Moi, ce que je voulais savoir, j'ai quatre variétés de tomates, des romas, des cœurs de bœuf, des pyros et des super secs. Pyros et super secs, ce sont des hybrides. Faut-il les enlever? Et si il faut les enlever, on les enlève à la main, disons en cassant le gourmand, ou faut-il le couper? Enfin bon, c'est la question un peu que...
C'est
que
pas aussi compliqué que tout ça, mon cher Jean-Pierre.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que le gourmand, tiens?
Alors, voilà, la bonne question de François. C'est quoi le gourmand? Ce sont les pousses assez vigoureuses et qui portent pas de fleurs ou peu de fleurs, qui poussent latéralement sur les plants de tomates. Donc ça... On les enlève. Pourquoi? Parce qu'il faut concentrer toute la sève sur la production des fruits. Il faut savoir que la proportion entre la production d'une feuille et la production d'un fruit, c'est un facteur de 1 à 100 au niveau de la demande énergétique. Puisque vous avez à peu près un multiplicateur de 10 pour avoir une fleur et un autre multiplicateur de 10 pour avoir un fruit. Donc, plus vous allez garder, on va dire, de la végétation abondante et moins vous risquez d'avoir une production qui soit satisfaisante. La deuxième raison pour laquelle on retire les gourmands, c'est qu'ils créent un aspect totalement buissonnant de la tomate qui gêne la pénétration du soleil au niveau des fruits. Ouais. Et donc, vous risquez...
Je sais si la tomate a besoin de soleil pour mûrir.
Alors, pour mûrir et puis surtout pour se charger de sucre, pour se charger de saveurs et donc l'exposition au soleil... ou du moins à la lumière, est extrêmement importante. Donc, après, est-ce qu'il faut les couper à la main ou est-ce qu'il faut les couper avec des ciseaux, un sécateur ou ce que vous voulez? peu importe. Sauf que, généralement, on peut casser facilement à la main un tout jeune gourmand, et ça c'est l'idéal, c'est-à-dire c'est au départ, lorsqu'il commence à se former sur le plan, sur le côté, on va le couper, et là on le casse avec les doigts. En revanche, quand il a déjà atteint la taille, enfin le diamètre d'un doigt par exemple, là vous êtes obligé de passer au ciseau, parce que si vous le cassez, vous allez faire une énorme blessure au niveau de l'endroit où il a pris naissance, et à ce moment-là, vous allez abîmer la plante. Donc, voilà. Alors maintenant, vous dites, effectivement, avec raison, que certains disent il ne faut pas les enlever, etc. Mais ça, ça dépend des tomates. Les tomates que vous m'avez citées, les variétés que vous cultivez, que j'ai vues sur la photo dans la serre, d'ailleurs, c'est très bien tenu à votre culture. Il n'y a pas non plus une prolifération de gourmands invraisemblable. J'en ai plus dans mon jardin.
Vous savez pourquoi ?
Oui.
Parce qu'on a dit avec mon épouse veut que je les laisse. Et moi, j'étais parti pour les enlever. Et j'avais commencé déjà à tailler un peu ces gourmands. Donc c'est pour ça qu'on en rencontre aussi.
Non, mais donc du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, alors en revanche, ceux qu'on ne taille pas, c'est essentiellement les tomates cerises. Et vous, comme vous n'avez que des tomates à gros fruits dans celles que vous m'avez citées, vous devez le faire. Voilà. Parce que les tomates cerises, elles font naturellement un buisson comme ça, il suffit donc de les palisser sur une armature pour pouvoir avoir une prolifération de fruits.
D'accord.
Voilà. Donc, écoutez, bonne tomate, parce que ça a l'air d'être bien parti, donc enlevez les derniers gourmands.
Pourrais-je avoir une autre question, s'il vous plaît?
Oui.
On dit, pour les protéger des pucerons, mettre des œillets d'Inde au pied des tomates, ça peut apporter, disons, les pucerons iront plus sur les œillets d'Inde que sur les plantes tomates.
Non, alors ça c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que la pratique, oui, mais c'est pas la raison. Les œillets d'Inde n'auront pas de pucerons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils produisent une odeur, là, on vient de parler des plantes parfumées, là, une odeur qui est extrêmement répulsive par rapport aux pucerons. Et donc là, on peut avoir un effet. Toutefois, il faudrait mieux mettre des roses d'Inde. Pour quelle raison ?
C'est qu'un œillet d'Inde ?
Ben oui, parce qu'un œillet d'Inde, ça mesure quoi ? 20 cm, 20-25 cm, et une tomate, ça fait 1 mètre, 1 mètre 20. Une rose d'Inde, vous avez des roses d'Inde qui font dans les 80 cm de haut, et là, vous allez avoir une proportion entre la plante protectrice et la tomate qui va être bien supérieure. Parce que n'oubliez pas que les pucerons, ça attaque toujours sur les jeunes pousses, donc d'extrémité. Et la distance qu'il va y avoir entre un pied d'œillet d'Inde de 20 cm et l'extrémité de la tomate à 1 mètre est trop grande pour que l'efficacité répulsive en fait soit réelle. Après, c'est quand même à limiter au niveau de l'efficacité. J'ai senti dans votre question qu'il y avait un petit bémol. Il faut le garder parce que c'est pas du 100% efficace, oui. Mais ça contribue effectivement à avoir un effet.
Merci Jean-Pierre. Le 32-16, hein, tout comme Jean-Pierre, vous voulez joindre Patrick Miolan. Alors pour ce samedi matin, ça va être un peu juste, hein, puisque dans quelques instants, on va retrouver la météo et les infos. Mais si pour la semaine prochaine, vous avez une question pour notre expert jardin, le 32-16 et via l'appli RMC Direct Studio, vous pouvez nous poser votre question avec votre numéro de téléphone.